Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
18h17, une impression de grand flottement, des critiques qui fusent de toutes parts pour tenter de remettre la campagne de vaccination sur les rails. Emmanuel Macron a organisé ce soir une réunion à l'Élysée. Professeur Karine Lacombe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans RTL Soir. Vous êtes la chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Jean Rottner, qui est un de vos collègues médecins, qui est aussi le président Les Républicains de la région Grand Est, parle d'un scandale d'État pour définir la stratégie vaccinale. C'est un point de vue médical ou c'est un point de vue politique?
Je pense que c'est un point de vue politique. Sur le plan médical, c'est vrai qu'on aurait souhaité que la campagne de vaccination soit lancée plus rapidement et en tout cas avec une plus grande ampleur. Il y a des contraintes logistiques qui sont importantes, des contraintes techniques.
Mais c'est vraiment si difficile que ça d'organiser une campagne de vaccination? Vous ne pouvez pas l'anticiper, ça?
Alors, c'est difficile, en particulier en France, hein, parce qu'on sait que le mouvement anti-vaccination est très fort. Il y a une défiance vaccinale très importante en France, plus que dans les autres pays. Et on peut comprendre que dans un contexte pareil, on n'ait pas envie de faire de faux pas. Et que ne pas faire de faux pas, ça implique aussi de prendre des précautions et d'anticiper d'éventuels problèmes qui pourraient se poser.
Mais est-ce qu'on n'a pas trop cédé aux anti-vaccins? Est-ce que c'est pas faire trop de concessions aux anti-vaccins et finalement pénaliser tous les autres?
Alors probablement qu'on a fait trop confiance, alors pas trop confiance, plutôt trop, on a porté trop d'importance à la défiance vaccinale. À un moment, il faut aussi savoir bousculer les choses, ne pas attendre de se faire bousculer pour bousculer l'ordre préétabli. Et oui, il faut qu'on accélère.
Quand on n'est pas infectiologue, Karine Lacombe, on se dit que pour venir à bout d'une épidémie, la solution la plus efficace, c'est de vacciner au plus vite le plus grand nombre de personnes. Et alors, quand on est épidémiologiste et infectiologue plutôt comme vous, on dit quoi, professeur Lacombe?
On dit la même chose. Quand on a une quantité de vaccins illimitée, c'est évident qu'il faut vacciner tout le monde au plus vite. Malheureusement, ce 4 janvier, on a une quantité de vaccins qui est limitée. Donc on est obligé, pour l'instant, d'établir un ordre de priorité.
Mais là, on ne comprend rien, parce qu'on a 500 personnes vaccinées depuis le 27 décembre en France. On nous dit qu'on a déjà reçu 500 000 doses, qu'on va encore en recevoir 580 000 d'ici demain. C'est ce qu'a dit Olivier Véran. Alors, c'est quand même pas bien compliqué de faire un vaccin, si, c'est de vacciner des gens.
Ah non, de faire le vaccin n'est pas compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la procédure que l'on a choisie en France, qui est probablement elle trop compliquée, c'est-à-dire
elle est trop lourde.
Elle est beaucoup trop lourde. Attendre, donc demander un accord de vaccination, faire une consultation pré-vaccination, vacciner, enregistrer les personnes vaccinées, tout ça c'est un processus qui est long, qu'il faut alléger. On est en train de l'alléger, par exemple on n'a plus d'accord de vaccination mais non-opposition, ce qui est assez différent en fait. Hein. Et puis surtout on l'élargit, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas simplement réserver les premiers vaccins aux personnes des EHPAD et des soins de longue durée, mais vraiment vacciner cette fameuse deuxième vague qui sont les soignants de plus de 50 ans, ceux de moins de 50 ans, etc.
Médicalement, ce retard que l'on a déjà pris, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est grave ou est-ce que finalement il est quantité négligeable?
C'est difficile de dire ça maintenant alors que la campagne est lancée en Europe depuis moins d'une semaine. Je pense qu'il faut aussi se donner le recul. Il ne faut pas céder à ce temps médiatique auquel on a donné beaucoup de crédit.
Qui est un temps politique aussi aujourd'hui.
Qui est aussi le temps politique, bien sûr. Je pense qu'il faudra faire un point d'étape, un mois, à 3 mois, à 6 mois, voir où on en est, et puis faire en sorte non seulement de vacciner plus de personnes, mais également d'appuyer un rythme plus accéléré de fabrication des vaccins.
Certains ont choisi, nos voisins anglais ont choisi de n'injecter qu'une seule dose dans un premier temps et de différer à beaucoup plus tard peut-être la seconde dose. Les Américains, on l'entendait dans le journal de 18h, s'interroge sur l'idée peut-être de mettre un petit peu moins de produits, un peu moins de vaccins pour chaque individu. Est-ce que ça, ce sont des bonnes idées ou ce sont des idées dangereuses?
Alors, je pense que les Anglais ont pris cette mesure-là parce qu'ils sont dans un temps contraint avec une épidémie qui flambe et probablement également des décisions politiques qui ont été prises sans vraiment de base scientifique. Ce qui a été évalué, quand même, il faut le rappeler, c'est deux injections qui procurent 95% de protection vaccinale. On ne sait pas ce que donne une seule injection. Enfin, si on le sait, hein, on diminue quasi de 50% l'efficacité vaccinale.
Donc on est moitié moins bien protégé.
On est moitié moins bien protégé, en gros. Et surtout, ce que l'on ne sait pas, c'est la durée d'existence des anticorps acquis après une seule injection. Je pense que c'est beaucoup de hasard, beaucoup de paris sur l'efficacité vaccinale qu'on fait avec une seule injection.
Donc là-dessus, vous dites qu'il vaut mieux qu'on reste dans les clous, qu'on prenne peut-être un peu plus de temps.
Je pense qu'il vaut mieux qu'on reste dans les clous, absolument, pour que ça prenne éventuellement un peu plus de temps, mais probablement que ça protégera mieux et plus longtemps.
En tant que personnel médical, Karine Lacombe, est-ce que vous souhaitez être vaccinée dès maintenant ?
Alors oui, je vais l'être, là, cette semaine.
On vous l'a proposé, ça y est, c'est...
Absolument, voilà, j'ai plus de 50 ans, je suis personnel soignant au contact de patients Covid, et on va être vacciné. Alors, on a lancé cette grande campagne de vaccination à la PHP, mais c'est aussi le cas dans d'autres hôpitaux en France. Et à partir de demain matin, donc on a commencé dès ce week-end à la PHP, et à partir de demain matin, par exemple, dans mon service, on va vacciner toute la journée avec des horaires nocturnes pour satisfaire le plus grand nombre de personnels qui sont concernés, personnel hospitalier, mais également personnel qui exerce en ville.
Pour vous, ça sera sans crainte et sans état d'âme, ce vaccin ?
Sans crainte, absolument. Je pense qu'on a maintenant des données qui nous viennent des essais thérapeutiques, mais également d'une utilisation quand même à grande échelle, en particulier aux États-Unis, sans problème d'innocuité, hein, sans problème de tolérance majeure, en tout cas pas plus que ce qu'on attendait. Donc oui, maintenant, on est vraiment rassurés. Il faut y aller.
On en est où aujourd'hui de cette épidémie ? On a parfois l'impression d'avancer, on se dit, tiens, ça progresse, on avance dans le match contre le virus, et puis, hop, on se la reprend en pleine figure. Cet après-midi, on a appris que l'Écosse reconfinait pour un mois, fermer ses écoles, reconfinement total là-bas. On en est où chez nous en France ? Comment elle progresse ou comment elle régresse ?
Ce que vous décrivez, c'est vraiment la dynamique classique d'une épidémie qui évolue par vagues. Donc on a bien vu, hein, depuis mars, on a eu des vagues successives. Alors où est-ce qu'on en est en France actuellement ? Je dirais qu'on est dans une espèce de statu quo, une espèce de plateau. Un plateau qui est assez élevé, hein, puisque en gros on varie entre 10 et 15 000 nouvelles infections par jour. Les tout derniers chiffres des nouvelles infections ne sont pas tellement fiables, qu'on a l'impression qu'on a un peu moins d'infections, puisqu'on a un pourcentage de PCR positif qui est plus faible. Mais attention, ça a été très dilué par un très grand nombre de dépistages à l'occasion des vacances scolaires.
Il faut encore énormément de gens se testent, il y a moins de cas
évidemment,
positifs.
Le nombre de positifs est plus faible, et heureusement. Parce que
Mais vous êtes aussi inquiète, on vous avait reçu souvent ici, vous êtes aussi inquiète aujourd'hui que vous avez pu l'être au printemps dernier quant à l'épidémie ?
Je suis moins inquiète, simplement parce qu'on connaît mieux l'épidémie. Donc on sait quand même mieux anticiper, on sait mieux soigner. Et quand je parle d'anticipation, on sait par exemple que l'un des facteurs qui nous permet d'anticiper l'importance d'une reprise épidémique, ça va être le nombre de cas positifs, on vient d'en parler, mais également le nombre d'arrivées en hospitalisation et en passage en réanimation. Actuellement, dans certaines régions de France, le nombre d'hospitalisations est déjà important, et plus spécifiquement en région parisienne et à Paris, c'est en train de frémir. On sent que ça augmente petit à petit, donc les arrivées aux urgences et les passages en hospitalisation. Donc, on est dans des signaux précoces d'une possible reprise épidémique.
Donc, d'une possible troisième vague ?
Et donc d'une possible troisième vague, absolument.
Deux variants, pour ne rien arranger, du virus ont été identifiés, l'un en Grande-Bretagne et l'autre en Afrique du Sud. Ces virus mutants, entre guillemets, doivent-ils nous inquiéter, nous, ici en France, sachant qu'on a déjà quelques cas en France, au moins du variant britannique ?
Oui, tout à fait. Enfin, on voit bien, le virus ne s'arrête pas aux frontières. Hein. Quand il a été détecté en Angleterre, il était probablement déjà présent en France. On doit être inquiet. Alors, il faut garder une mesure dans l'inquiétude. Ce qui a été montré pour l'instant en Angleterre, c'est que ce virus se transmettait probablement mieux,
plus vite, qu'il
y a une espèce de meilleure adéquation entre le virus et la porte d'entrée dans le corps humain. Mais ceci dit, quand on applique bien les gestes barrières, ce virus n'a pas plus de raisons de se transmettre que les autres.
Il se transmet de la même manière. Donc
exactement,
voilà, si on se protège...
il se transmet de la même manière. Donc, ça montre aussi une faillite quelque part des mesures barrières en Angleterre, mais enfin dans le Royaume-Uni. Mais il faut savoir que c'est aussi contemporain au Royaume-Uni de la levée des mesures de restriction. Hein. L'épidémie a flambé 15 jours après l'ouverture des bars, etc., etc. En revanche, il n'a pas pour l'instant été montré que ce virus entraînait des maladies plus graves, une forme plus grave de la Covid-19.
Et chez les enfants notamment ? Parce qu'il y a une inquiétude en Angleterre sur des cas peut-être chez les enfants plus hospitalisés. Ça a fait un peu polémique ce week-end.
Alors écoutez, franchement, quand on retourne à la source des données, vraiment, en particulier la Société Royale de Pédiatrie, qui fait un peu office de garant du sérieux de l'information scientifique, on n'a pas de signes particuliers de forme plus fréquente, plus grave chez les enfants.
Karine Lacan, vous avez raconté le premier confinement dans une BD qui s'appelle La médecin, une infectiologue au temps du corona. C'est un vrai reportage, c'est un vrai témoignage. Pourquoi vous avez eu envie de raconter ça? C'est pour que ça reste vraiment? C'est pour vous divertir parce que vous n'en pouviez plus?
Non. Déjà, je pense que le format BD peut parler à beaucoup plus de gens qu'un essai, par exemple. Ça va, on peut le lire à partir de 10 ans jusqu'à X années, quel que soit notre bagage scientifique, notre bagage intellectuel. Et on avait envie, avec Fiera Luzzatti, la dessinatrice, de montrer vraiment l'intérieur de l'hôpital, comment est-ce que l'hôpital a fait face à cette crise sanitaire majeure, et comment finalement tous les acteurs se sont trouvés imbriqués, et comment on a été obligés de tous travailler ensemble, de tous innover, d'inventer une réponse à une pandémie.
Parce que tout est vrai là-dedans, ça se lit tout seul et tout est vrai.
Tout est vrai, absolument, tout est vrai. Voilà, c'est aussi mon expérience au quotidien, tout ce qu'on a traversé ensemble, comment les médias également sont venus percuter la réalité scientifique et comment on a été obligé de mélanger l'intime au professionnel.
Et on voit tout ça, à quel point tout cela a été violent, y compris pour vous, à vivre ça de l'intérieur. J'ai une dernière question. Vous avez été distinguée, Karine Lacan, puisque vous allez recevoir la Légion d'honneur. Vous faites partie des 63% de promus de la Légion d'honneur distingués pour leur investissement dans la lutte contre l'épidémie. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez su que vous étiez sur la liste ?
J'ai été abasourdie, je peux le dire comme ça.
Vous l'avez pris comment ?
Alors, c'était un honneur. Je pense que c'est vrai que c'est une reconnaissance de l'État, mais en même temps, l'État, c'est nous. Aussi, c'est chacun de nous. Voilà, on est dans une démocratie, donc l'État, c'est un peu chacun de nous. J'étais particulièrement touchée parce que je dois vous dire que je reçois cette Légion d'honneur 100 ans, quasi jour pour jour, après que mon arrière-grand-père l'ait reçue après avoir été gravement blessé pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, ça apporte une touche d'émotion et cette récompense. Je pense qu'en fait, si je pouvais la partager avec toute mon équipe, si je pouvais la partager avec les institutions qui m'ont soutenue, que ce soit la PHP, mais également l'université, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir essentiellement fait mon travail. Ce soit un travail de pédagogie, c'est mon boulot quotidien, et puis mon travail de soignant.
C'est bien aussi que les Légions d'honneur, de temps en temps, récompensent des gens qui la méritent vraiment. Merci beaucoup, Karine Lacombe. Je rappelle le nom de cette BD, hein, la médecin, une infectiologue au temps du corona. Les dessins sont de Fiamma Luzzatti, le texte est La vie, la vraie vie. C'est de Karine Lacombe et c'est chez Stock. Merci à vous. À suivre, l'œil de Natacha Polony. Nous sommes le 4 janvier. Pas sûr que les résolutions prises par la directrice de Marianne tiennent encore, mais elle va quand même nous en parler.
RTL Soir.